si je devais vous poser la question, quel est le plus grand problème au monde? Je pense que chacun aurait un peu un avis un peu différent là-dessus. Parce que pour certains, leur problème particulier semble le plus important, n'est-ce pas? Ce qui m'affecte moi personnellement, c'est ce qui est le plus important pour moi, n'est-ce pas? Et parfois, les gens qui connaissent pas mal de choses, sont au courant de pas mal de choses, ils vont avoir une optique différente. Certains, ils vont dire une chose, ils vont dire c'est la maladie. D'autres vont dire c'est la faim. D'autres vont dire c'est telle ou telle chose. Le plus grand problème au monde, c'est l'injustice. Et si chacun devait répondre à cette question, je suis convaincu on aurait des réponses bien différentes. Une chose sur laquelle nous serions tous d'accord, c'est qu'il y a des problèmes dans le monde. Et il y a de graves problèmes dans le monde. Même si parfois on a des lueurs d'espoir, où ça semble aller assez bien, et après, non, on voit qu'il y a, il y a quand même beaucoup de difficultés. Et si nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est là où nous serons ce matin, nous voyons que Paul va mettre l'accent sur un problème qui affecte tout le monde, qui, dans ce sens, pourrait être qualifié de plus grand problème au monde. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3, nous allons commencer à lire à partir de verset 18 et nous irons jusqu'au chapitre 4, verset 5. Donc, on sera à cheval entre les deux chapitres. Dans le chapitre 3, donc verset 18, jusqu'au verset 5 de chapitre 4, suivez avec moi alors que je fais la lecture de ces versets. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons placer ces moments entre tes mains. Que tu parles à notre cœur, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans notre cœur, que nous ne restions pas indifférents, Seigneur, et que nous puissions repartir d'ici à la fois fortifiés et encouragés, repris là où il le faut, et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. Entendons-nous, Seigneur. Amen. Donc, Paul, comme j'ai dit, met l'accent sur un gros problème dans ces versets. Et il savait que chez les Corinthiens, il y avait ce gros problème. Et dans notre vie également, il y a ce gros problème. En fait, c'est un problème qui affecte tout le monde. Et c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème que nous pouvons régler avec des lois. Ce n'est pas un problème que nous pouvons résoudre tout simplement avec la bonne volonté, avec notre propre force. Non, c'est un problème spirituel. Paul, il est bien accent là-dessus. Et lorsque nous lisons ces versets, nous nous rendons compte que Paul, il avait compris que le problème des Corinthiens, en fait, c'était l'orgueil. L'orgueil qui est là, qui, on pourrait dire, est à la base de tout autre problème dans le monde et qui est à la base du péché. L'orgueil en lui-même est un péché. Et du coup, l'homme étant pécheur sera d'office orgueilleux. Et Paul voulait aider les chrétiens de Corinthe justement à surmonter cela. Il voulait les aider à rester dans l'humilité, de rejeter l'orgueil pour leur faire comprendre que ce n'était pas du tout ce que Dieu voulait, et puis pour les aider à vraiment rester dans cette humilité. Et si nous revenons au verset 18, Paul y dit que nul ne s'abuse, parce que n'importe qui peut tomber dans ce travers. Cette tentation est là pour chacun d'entre nous. Personne d'entre nous n'est arrivé à un stade de maturité où nous pouvons dire « je ne serai plus jamais orgueilleux ». Ce serait déjà de l'orgueil, n'est-ce pas ? Dès ce moment-là, nous tombons dans l'orgueil, donc là, c'est raté. Nul d'entre nous n'est à l'abri. Paul le dit, n'importe qui peut s'abuser en croyant qu'il est sage, en croyant qu'il est capable par lui-même de surmonter tout, qu'il n'a besoin de personne d'autre, y compris Dieu. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans l'orgueil. Et puis, chapitre 4, verset 5, regardez à la fin. Alors, chacun, tous sont impliqués ici. Personne ne peut s'exempter en disant « ceci ne s'applique pas à moi. Je n'ai pas ce problème-là. » Au contraire, nous avons tous ce problème et nous faisons tous chaque jour face à cela. Parce que le monde autour de nous est dans l'orgueil et ne voit pas de problème avec cela. Le monde sera très prompt à reconnaître qu'il est dans l'orgueil. Les gens qui ne connaissent pas Dieu disent « oui, il y a un orgueil. Je suis le meilleur. Je suis le plus fort. Je suis le plus intelligent. » Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est normal. Le monde ne voit pas le problème avec l'orgueil. En tant que chrétiens, nous devons nous souvenir qu'il y a un problème avec cela et que Dieu déteste l'orgueil, il va carrément résister les orgueilleux. Mais il va faire grâce aux humbles. Et Paul voulait aider les chrétiens de Corinthe à la fois à rejeter l'orgueil, mais également d'accepter et de rester dans l'humilité. Et nous savons que de nos jours, l'humilité n'est pas quelque chose qui est mis en avant. Pour le monde, l'humilité n'est pas une valeur, n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Non. Le monde va critiquer l'humilité. Le monde va mépriser l'humilité. N'est-ce pas? Mais pour nous, en tant que chrétiens, si nous voulons rester près de Dieu, si nous voulons obéir à sa parole, il nous faut rester dans l'humilité. Et c'est un choix de chaque moment. Parce que il y a la tentation du monde, son exemple qui est là, qui nous dit ce n'est pas grave. Si on est dans l'orgueil, si on croit être debout, comme Paul va dire aux Galates, si on croit pouvoir faire quoi que ce soit par nous-mêmes, par notre propre force, si nous nous mettons en avant, là, le monde va dire c'est pas grave. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et parce que nous sommes confrontés avec ce raisonnement tous les jours, il faut faire attention. Et du coup, il s'agit pour nous aujourd'hui de prendre la décision de rester dans l'humilité. Et Paul va aider les chrétiens de Corinthe dans cela, et nous pouvons retenir plusieurs principes dans ce passage. Alors, pour pouvoir rester dans l'humilité, parce qu'on ne trouvera pas ça dans le monde, nous ne trouvons pas cela dans notre propre vie, il faut revenir vers la parole de Dieu pour cette aide pour rester dans l'humilité. Et premièrement, il faut rester vigilant. Comme j'ai dit, notre tendance naturelle, c'est de nous en envahir. De nous dire, nous ne sommes pas si mauvais que cela. Chacun d'entre nous, et je vous invite à le faire tout de suite, peut penser à quelqu'un qui, entre guillemets, est pire que nous, qui fait des choses plus mauvaises que nous, qui est dans une situation, on va dire, pire que nous, qui agit méchamment. Chacun d'entre nous peut penser à au moins une personne qui est en dessous de nous. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne veillons pas sur notre propre raisonnement, on va se dire, je ne suis pas si mauvais que ça. Regardez un tel ou tel. Il ne suit pas le Seigneur. Ce n'est même pas un chrétien. Moi, je suis chrétien. Regardez-moi. Ou bien, moi, je suis un chrétien engagé. Les autres chrétiens, ils ne s'engagent pas autant que moi. Je suis fidèle. Je fais toutes ces choses. Regardez-moi. Et verset 18, Paul dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, c'est un raisonnement selon le monde, cela. Ce n'est pas un raisonnement qui vient de Dieu. Jacques va parler de la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est une sagesse qui est humble. Et du coup, il faut être vigilant. Vigilant à chaque moment, parce qu'à chaque moment, nous serons tentés de tomber dans l'orgueil, croire que nous sommes meilleurs, croire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin des autres, que nous n'avons pas même besoin de Dieu. Et quelqu'un va dire, je n'irai jamais jusque-là. Attention, l'orgueil, lorsque cela commence dans notre vie, peut conduire à un rejet même de Dieu. Et c'est l'orgueil qui empêche les inconvertis de se convertir. Ils disent déjà, je n'ai pas besoin de Dieu. Et c'est l'orgueil qui empêche la croissance du chrétien. Parce que Dieu a besoin de nous faire grandir. Mais si nous croyons pouvoir arriver par nous-mêmes, nous allons tomber. Dieu ne pourra pas faire son œuvre en nous. Et pour dire verset 19, la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Les inconvertis, lorsqu'ils réfléchissent à leur façon, lorsqu'ils croient pouvoir arranger tout avec leur méthode, avec leurs ressources, c'est une folie devant Dieu. Dieu dit, mais c'est pas ça qu'il faut. Non, mais vous vous trompez. Et lorsque le chrétien réfléchit de cette façon, lorsque le chrétien se dit, je vais y arriver par mes propres moyens, je vais grandir spirituellement par moi-même, je vais pouvoir avancer par moi-même, je vais pouvoir travailler pour Dieu par moi-même, à ce moment-là, Dieu dit, c'est une folie, c'est un raisonnement du monde. Et il faut être vigilant parce que ces attaques sont là. L'exemple du monde est mauvais, est un exemple à éviter. Et il ne faut jamais oublier que Satan est là pour nous tenter. Pierre va parler de lui comme ce lion qui est là, qui rôde, qui cherche, qui va dévorer. C'est une image quand même assez effrayante. Il paraît que là, il y a quelques jours, et je n'ai pas suivi l'affaire, mais sur Paris, il y avait j'avais entendu parler de soit un tigre ou autre, il y avait quelque chose qui s'est passé là à Paris, les gens ils craignaient, oula, il y a peut-être une bête dangereuse et tout, je peux vous garantir que les gens, ils faisaient attention, ils ne faisaient pas n'importe quoi, ils étaient vigilants. Et nous, en tant que chrétiens, de savoir que notre adversaire, Satan, le diable, est là, il nous faut être vigilants. Parce que lui, il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, mais non, c'est pas la peine de réfléchir de cette façon. Dieu est trop exigeant. Dieu, quand même, il ne s'attend pas à ça. Non. Et ce sont les raisonnements à la fois du monde, les raisonnements de notre adversaire qui vont nous faire tomber, qui vont nous pousser à l'orgueil. Et Dieu veut que nous soyons humbles, et pour cela, il faut être vigilant. Sinon, on s'endort. On accepte le raisonnement du monde comme normal. On succombe aux attaques de Satan. Et en fait, ce que nous faisons pour Dieu n'aboutira pas. Et Paul dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et Dieu va se remonter contre cela. Il va agir. Il dit, il prend, donc Dieu prend les sages dans leur ruse. Il est en train de citer Job. Puis verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. De ces sages seront ce monde. Là, il va citer les psaumes. Et Paul dit, il faut être vigilant. Il va répéter cela, verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Il est évident. Il répète. Et puis chapitre 4, il va répéter encore, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut être vigilant. Et nous avons besoin de ce rappel, parce que trop facilement nous tomberons dans l'orgueil. Ça commence tout petit. On cède un peu. On commence à réfléchir selon le monde, un peu. Et on ouvre la porte. Et après, cela continue. Et du coup, il faut être vigilant à chaque moment. Pas juste pendant quelques heures, pas juste le dimanche, le mardi, pas juste à tel ou tel moment, mais à tout moment. Il faut être vigilant. Et puis, en plus d'être vigilant, si nous voulons rester dans l'humilité, il nous faut nous souvenir de notre place. Chapitre 4, regardez comment Paul il va commencer ce chapitre. Ainsi, sur la base de ce qu'il dit dans les trois premiers chapitres, notamment dans ce domaine de l'humilité, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. » Des serviteurs de Christ. Paul reconnaissait sa place. Il savait que, en fait, en lui-même, il n'était rien. Philippiens chapitre 2, si vous voulez prendre, noter ce passage et aller le lire plus tard, je vous encourage à le faire. Mais Paul dit, j'ai toutes ces choses. J'ai grandi dans une bonne famille, j'ai reçu une bonne éducation, je croyais être zélé pour Dieu, j'ai toutes ces qualités, mais en réalité, ce n'est rien. Non, ce n'est rien. Parce que toutes ces choses étaient en dehors de Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui m'a saisi. Gloire à Dieu. Et Paul savait qu'il n'était qu'un simple serviteur. Littéralement esclave. Il était lié à Dieu. Il savait qu'il n'était pas meilleur que les autres. Même si à un moment donné, il va dire, j'ai travaillé plus que tous. Mais ce n'était pas de l'orgueil. Non, il reconnaissait que c'était Dieu qui travaillait à travers lui. Il va dire aux Galates, j'ai travaillé plus que tous, mais toutefois, non pas moi, mais le Seigneur qui travaillait à travers moi. Et Paul savait très bien sa place. Sa place n'était pas au-dessus des autres, mais en dessous. L'exemple suprême de ceci, c'était Jésus-Christ, Jean chapitre 13. Encore un passage que vous pouvez noter, où Jésus lave les pieds des disciples. Il se rabaisse à ce niveau du plus humble esclave. Le serviteur le plus bas, c'était lui qui faisait ce travail. Laver les pieds de quelqu'un d'autre. Accepter cette tâche qui était sale, qui sentait probablement, qui était désagréable. Et le Fils de Dieu se rabaisse à ce niveau-là, imaginez-vous. Et Paul savait que lui, il était serviteur. Il n'était pas au-dessus des autres. Et puis, verset 21 de chapitre 3, regardez. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Paul ne fait pas de distinction. Il ne dit pas aux Corinthiens, vous êtes meilleurs que les autres, ou il y a quelques-uns parmi vous qui sont au-dessus, eux, ils sont les plus spirituels, et vous, les autres Corinthiens, ben, ce que vous faites est mal et tout. Non, il dit, tout est à vous, vous êtes égaux. Et parce que Paul a enseigné tous les Corinthiens sans exception, Apollos également, qui va citer ici, Cephas, qui est Pierre, et toutes ces choses étaient, hein, tous les chrétiens de Corinthe, ils étaient égaux, alors pas le sujet de se glorifier, pas de sujet d'orgueil, comme il va dire plus tard, ben, ce que nous avons reçu, ben, nous l'avons reçu de Dieu, alors où est le sujet de se glorifier? Il n'y en a pas. Nous sommes égaux, c'est-à-dire nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Et lorsque nous nous souvenons de cela, il n'y a aucune place pour l'orgueil. Il n'y a aucune place pour dire, ben, je suis au-dessus des autres. Non, non, non. Paul se souvenait très bien de sa place. Malgré son éloquence, malgré son enseignement, malgré tout ce que Dieu faisait à travers lui, il savait qu'il n'était qu'un simple esclave de Dieu. Et du coup, ici, si nous revenons au chapitre 4, verset 1, je suis serviteur de Christ, je suis un dispensateur des mystères de Dieu. Ce n'était pas son message qu'il était en train d'annoncer, ce n'était pas ses avis, ce n'était pas ses opinions, non, c'était quelque chose qu'il recevait de Dieu, qu'il partageait. Du coup, la force pour travailler lui venait de Dieu. Son message qu'il annonçait venait de Dieu. Et du coup, Paul ne pouvait pas se placer au-dessus des autres. Et si Paul ne pouvait pas le faire, ne devait pas le faire, ben, nous non plus. Encore une fois, nous ne pouvons pas dire « moi je suis engagé, quelqu'un d'autre ne l'est pas ». Ou même l'inverse, « je ne suis pas engagé, pour moi, qu'est-ce que moi je veux faire, tous les autres sont mieux que moi et tout ». Non, non, non. Les deux attitudes sont à rejeter. Paul a dit, vous êtes tous égaux et Dieu veut se servir de chaque chrétien. Encore une fois, aucun des chrétiens de Corinthe n'était exempt de ceci. Et aucun chrétien aujourd'hui, que ce soit dans cette église ou dans n'importe quelle autre église, est exempt de cet esprit d'humilité. Qu'un chrétien, où qu'il soit, dans l'orgueil, un chrétien dans l'orgueil, ben, est un enfant. Et c'est parce qu'il a oublié sa place, et soit il pense qu'il est mieux que les autres, soit il pense qu'il est pire, mais il n'a pas une image juste de lui-même, devant Dieu. Et oui, il faut être vigilant à chaque moment, mais également, il faut nous souvenir de notre place. Nous sommes égaux, et notre désir doit être, ben, de rester à notre place, d'humilité et de dire je me mets au service des uns des autres. Et à la fin de verset 22, chapitre 3, tout est à vous, toutes ces choses, ils étaient aux Corinthiens et les Corinthiens sans exception. Dieu ne bénissait pas simplement quelques chrétiens, mais tous. Il avait accordé tout à tous les chrétiens. Et c'est le cas. Alors, aucune place pour nous de nous glorifier si nous nous souvenons de notre place. Et puis, en plus d'être vigilant, en plus de se souvenir de sa place devant Dieu, ben, il faut continuer de travailler pour le Seigneur. Regardez chapitre 4. Paul dit au verset 1, « Oui, nous sommes serviteurs, mais qu'est-ce que c'est un serviteur ?» Parce qu'il est là, devant la maison, en train de tourner les pouces. Non, il est actif, il fait les choses. Et en plus d'être serviteur, il est un dispensateur des mystères de Dieu, dit Paul. Et puis, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est-à-dire, continuer. L'orgueil nous empêchera de travailler pour Dieu. Certes, peut-être à l'extérieur, nous pourrons faire toutes sortes de choses, nous pourrons être actives aux yeux des hommes. Mais l'orgueil ne nous aidera pas du tout à travailler pour Dieu. C'est l'humilité qui fera que ce que nous faisons est pour Dieu. Et l'humilité nous poussera à travailler. Parce qu'aucune tâche ne sera trop grande, trop petite. Nous ne sommes pas au-dessus de faire certaines choses. Ce matin, nous avons parlé de Jacob et qu'à un moment donné, ses parents l'envoient loin pour chercher une femme et il a obéi. Et nous voyons que cela l'a rangé parce que son frère lui en voulait parce qu'il avait trompé et tout. Donc là, l'obéissance de Jacob, ça l'arrangeait. Et quand l'obéissance nous arrange, quand l'humilité nous arrange, ça tant mieux. Mais ce n'est pas le critère essentiel pour obéir ou pour rester dans l'humilité. L'humilité, c'est que nous allons faire des choses même si parfois cela ne nous arrange pas. Une tâche, quelque chose, nous engager dans un domaine où on ne se sent pas trop bien, mais on voit que Dieu nous ouvre une porte et c'est ce que lui voudrait faire à travers nous. Mais bon, c'est peut-être un nouveau domaine, peut-être que c'est un domaine où on n'a pas trop de compétences, où peut-être personne ne nous verra. Et on se dit, oula, je ne veux pas trop faire cela. Mais c'est l'humilité devant Dieu en disant, aucune tâche n'est trop petite. Rien n'est trop obscur pour que moi, je puisse le faire. Si je suis dirigé par l'humilité qui vient de Dieu. Et c'est cette humilité qui va faire en sorte que nous allons continuer de travailler, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et Paul savait que la chose la plus importante, c'était cette fidélité. Un serviteur qui n'est pas fidèle n'est pas digne de ce nom. Un esclave qui ne faisait pas son travail, il était fini, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons un travail. Notre employeur exige et attend certaines choses de nous. Si nous ne le faisons pas, notre employeur est juste en prenant des mesures contre cela. Si dans notre travail nous ne travaillons pas, est-ce que c'est juste que notre patron ne nous paye pas? Je dirais que oui, n'est-ce pas? Si nous ne travaillons pas, pourquoi devrions-nous être récompensés? Mais si nous travaillons, si nous persévérons, cela montre que nous sommes de bons serviteurs. Et nous reconnaissons cette idée dans le domaine du travail, on va dire dans le monde, et dans le domaine spirituel, si nous travaillons pour Dieu, si nous persévérons, si nous sommes fidèles, c'est la preuve que nous restons dans l'humilité. Mais malheureusement, l'orgueil va nous empêcher de vraiment travailler pour le Seigneur. Nous serons dans l'activisme, c'est-à-dire être actif à droite et à gauche, à faire certaines choses, mais ce ne sera pas pour le Seigneur. Et de se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Lorsque je prie, pourquoi est-ce que je le fais? Pour que d'autres m'entendent? Ou bien pour que Dieu m'entende? C'est le problème des pharisiens, n'est-ce pas? Jésus le dit, Matthieu chapitre 6 et 7. Eux, ils prient pour qu'on les entende. Vous, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut rester dans l'humilité. Et même si personne d'autre ne nous entend, il faut prier. Parce que nous prions à Dieu. Être présent dans l'église pour que les autres nous voient ou pour Dieu. Être engagé dans les activités de l'église, tout simplement pour faire acte de présence ou parce que nous aimons Dieu. Aider quelqu'un pour que les autres disent quelle aide, quelle que cette personne est formidable. Ou parce que c'est vraiment l'amour de Christ qui nous anime. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que si nous sommes dans l'humilité, nous avons travaillé pour le Seigneur et nous avons persévéré dans cela. Avec l'orgueil, nous pouvons persévérer un peu. Mais l'orgueil n'est pas suffisant pour persévérer jusqu'à la fin. L'humilité fera que nous allons pouvoir persévérer autant qu'il faudra. Avec l'humilité, nous n'allons pas baisser les bras. Et Paul dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et chacun doit s'occuper de soi-même. Il ne s'agit pas de vérifier si quelqu'un d'autre est fidèle ou pas, si quelqu'un d'autre fait le travail qu'il faut, non, que chacun soit trouvé fidèle. Je ne m'occupe pas en premier de ce que font les autres, non. Devant Dieu, je m'occupe de ce que moi je fais pour le Seigneur. Et Paul dit, c'est cette fidélité, cette persévérance que Dieu va faire en nous qui est le plus important. Et en continuant de travailler pour le Seigneur et non pas pour les autres, non pas pour être vus, à ce moment-là, nous allons pouvoir rester dans l'humilité. Et puis, au verset 5, Paul va dire, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et de savoir qu'un jour, nous serons récompensés, chapitre 3, Paul en avait déjà parlé, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il va expliquer que cela, c'est le tribunal de Christ. Nos œuvres seront examinées, c'est cette idée de juger. Nos œuvres seront examinées, ce qui aura été fait pour Dieu, par sa grâce, dans l'humilité, restera, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ce qui aura été fait dans la chair, dans l'orgueil, ça va partir en fumée. Et Paul dit, chacun recevra de Dieu. Il y a une certitude ici, qu'un jour, nous allons recevoir les récompenses que nous méritons. Et que nous méritons dans le bon sens. Ce que nous aurions fait pour Dieu va rester. Et Paul est entièrement convaincu qu'un jour, il se tiendra devant Dieu et va devoir rendre compte pour ce qu'il aura fait. Le monde est dans l'incertitude absolue quant à l'avenir. Que ce soit l'avenir pour ce monde-ci, mais aussi l'avenir après ce monde. Après la mort, le monde est dans l'incertitude totale. Mais les chrétiens, qui croient la parole de Dieu, nous avons cette certitude qu'un jour nous serons devant Dieu. Et avec cette perspective devant nos yeux, nous pouvons rester dans l'humilité. Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir la louange aujourd'hui. Si on en reçoit, ben tant mieux. Si les gens nous regardent, tant mieux. S'ils ne nous regardent pas, ben tant pis. Nous persévérons et nous savons que Dieu va récompenser par la suite. C'est l'orgueil qui veut obtenir la louange, la récompense aujourd'hui. C'est l'humilité qui dit, ben, j'attends. Et je travaille tout simplement pour Dieu en sachant que lui, il est fidèle, comme le titre aux Hébreux dit. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail pour lui. Et un jour, Dieu me récompensera. Et Paul dit, chacun recevra de Dieu. Les hommes, ben, ça compte peu. Mais Dieu, oui. Il est tout. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et la formule que Paul il emploie ici est quand même assez intéressante. Chacun recevra ce qui lui est dû. C'est-à-dire, il y aura une justice parfaite. Ceux qui auront travaillé beaucoup pour le Seigneur, ben, ils auront beaucoup. Ceux qui auront travaillé peu pour le Seigneur, ben, ils auront peu. Et imaginez-vous ce jour, nous serons devant le Seigneur et nous allons devoir rendre compte pour notre temps ici sur terre. Et là, Dieu, dans ce sens, va nous donner ce que nous méritons. Encore une fois, il n'est pas question de salut. Le salut ici n'est pas du tout en question. C'est notre travail en tant que chrétien pour Dieu. Et Dieu va nous donner ce que nous méritons. Encore une fois, si nous avons travaillé beaucoup pour le Seigneur, ben, gloire à Dieu par sa grâce, nous aurons beaucoup à lui apporter. Mais imaginez-vous un chrétien qui aura peu fait pour le Seigneur, qui peut-être aura cru beaucoup travailler pour le Seigneur, mais en réalité, c'était avec ses propres efforts. Il a beaucoup fait dans l'orgueil pour être vu sur le moment, et là, il se retrouve devant Dieu avec juste quelle récompense. Imaginez-vous la tristesse, imaginez-vous la honte à ce moment où, devant Dieu lui-même et devant tous les autres, on se retrouve dans ce calcul. Et Paul voulait mettre les chrétiens de Corinthe devant cette réalité, cette certitude qu'un jour nous allons nous trouver devant Dieu et nous allons recevoir ce que nous méritons. Serait-ce beaucoup? Ben, cela dépend de ce que nous avons fait ici sur terre. Serait-ce petit? Ben, pareil. Et c'est cette question d'orgueil et d'humilité qui va faire en sorte que nous ayons beaucoup ou peu. Tout ce qui est fait par l'orgueil ne compte pas du tout pour Dieu. Ce qui est fait dans l'humilité, c'est ça qui compte pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous garde humbles. Et aujourd'hui, d'examiner ce que nous faisons. Nous sommes là aujourd'hui, gloire à Dieu, vous êtes présents, tant mieux. Il faut se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous regardez à l'avenir et vous vous dites, Dieu veut que je sois avec son peuple en train de l'adorer, de louer, et du coup je le fais, parce que je pense que cela lui apporte honneur et gloire, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Lorsque nous regardons vers l'avenir, vers ce jour où nous serons devant Dieu, nous ne pouvons qu'être dans l'humilité. Et cela va nous aider à chasser cet orgueil et puis de demeurer dans l'humilité. Et c'est un examen que chacun doit faire soi-même. Et pour cela, regardez les versets 3 et 4. C'était de manière volontaire que on est passé du verset 2 au verset 5. Parce que Paul, au milieu de toute cette discussion, il va mettre l'accent sur quelque chose de très, très important. Au verset 3, il va dire, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Apparemment, les chrétiens de Corinthe jugeaient, était en train de juger l'apôtre Paul en disant ben, il a fait ceci et cela parce que lorsqu'il était chez nous il a parlé de telle ou telle façon parce que il dit pour moi peu importe que je sois jugé par vous, peu importe que je sois jugé par un tribunal humain, ce qui arriverait par la suite. Souvenez-vous Actes chapitre 21, 22 jusqu'à la fin, ben, Paul est devant un tribunal humain, le tribunal romain, déjà à Jérusalem, ensuite à Césarée, et après il va atterrir à Rome. Et dit, ce n'est pas ça qui est le plus important, non. Et puis, il va plus loin en disant, je ne me juge pas non plus moi-même. Parce qu'il savait que son jugement était faussé. Il savait que son jugement ne serait pas juste. Il dit, je ne me sens coupable de rien. Non pas qu'il n'était pas coupable, mais il ne se sentait pas coupable. Son jugement était faussé. Et c'est là où, verset 4, ce n'est pas pour cela que je suis justifié, ce n'est pas parce que je ne me sens pas coupable, que je ne suis pas coupable. Non, même si je ne me sens pas coupable, je suis quand même coupable. Mais il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous sommes limités dans ce que nous voyons. Nous voyons l'extérieur. Nous voyons ce que les gens font. Nous entendons ce qu'ils disent, mais il y a quelque chose qui nous échappe. C'est l'intérieur. C'est le cœur. C'est l'esprit. Ce sont les motivations, ce sont les sentiments. Tout cela, nous ne voyons pas. Et nous sommes tout à fait incapables de le voir. Par contre, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce que lui, il voit tout. Non seulement il voit l'extérieur, mais il voit le cœur également. Et je ne vois pas la motivation des autres. Mais Dieu le voit. Et dans un sens, je peux regarder moi-même et me tromper. Je peux regarder en mon fort intérieur et dire « tout va bien » et ne pas être honnête avec moi. Et Paul dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est-à-dire, aucune condamnation sur les apparences avec notre esprit limité. Non. Laissez ça entre les mains de Dieu. Et laissez Dieu faire son œuvre en nous. Il ne s'agit pas de le faire pour les autres. Non, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu fera son propre travail dans leur vie, mais dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Et de faire la prière à Dieu, ben Dieu, montre-moi là où je dois changer. Montre-moi là où je suis orgueilleux. Montre-moi là où je ne suis pas fidèle. Montre-moi là où je ne suis pas dans l'humilité. Et Paul dit, je peux me tromper moi-même. Je ne veux pas être honnête avec moi-même, je veux présenter le meilleur côté, comme on dit. Je veux me présenter en tant que bien. Mais Dieu connaît la réalité. Dieu voit les sentiments, Dieu voit les motivations, Dieu voit tout ce qui est à l'intérieur. Et il sait lorsque nous sommes dans l'orgueil ou dans l'humilité. Et du coup, il s'agit pour nous de laisser Dieu nous juger, Dieu nous examiner, nous éclairer par sa parole, et de le faire individuellement. Il ne s'agit pas de faire ça pour quelqu'un d'autre, bien sûr, mais pour nous. Parce que le faire pour quelqu'un d'autre serait encore une fois tomber dans l'orgueil. Ce n'est pas notre place. Non, Dieu va traiter avec cette personne. Et cette personne aura des comptes à rendre à Dieu, lui seul. Moi, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et ça, c'est assez. Souvent, mes parents disaient, et je le répète encore aujourd'hui, Robert, toi-même, tu as assez de choses dont tu dois t'occuper. Il ne s'agit pas de t'occuper des autres. Non, tu as assez de problèmes toi-même. Là, c'est assez. Et du coup, pour nous, devant Dieu, de nous examiner, plutôt laisser Dieu nous examiner avec sa justice, avec sa parole. Maintenant, une précision à apporter là-dessus. Quand Paul dit au verset 5, ne jugez de rien avant le temps, ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit, lorsque un frère, une sœur s'écarte de la parole de Dieu, que nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, Paul va se contredire au chapitre 5, le chapitre suivant, où il met bien l'accent sur le comportement de certains dans l'église de Corinthe. Il dit, mais il y a un péché parmi vous que même les inconvertis ont en horreur. Et vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Donc là, Paul, dans ce sens, va les juger. Mais c'est parce que leur comportement était mauvais. Ils ne jugeaient pas les sentiments ni les motivations. Ils jugeaient le comportement. Et à chaque fois qu'un chrétien s'écarte de la parole de Dieu en action ou en parole, par amour pour ce frère ou cette sœur, nous devons dire, mon frère, ma sœur, voici ce que dit la parole de Dieu. Et voici ce que toi tu dis, toi tu fais. Ce n'est pas conforme. Et nous ne pouvons pas juger sentiments, les motivations. Par contre, nous pouvons voir dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, les choses que nous pouvons voir lorsque ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et là, parce que c'est quelque chose que nous pouvons voir, effectivement, nous pouvons rappeler avec amour, bien sûr, mais avec la vérité de la parole de Dieu, voilà, les choses qui ne vont pas. Et parfois, quelqu'un doit venir nous dire, ben, ceci ne va pas. Parce que c'est quelque chose que nous pouvons voir. Mais les sentiments, les motivations, ça c'est quelque chose que Dieu seul voit. Et c'est à chacun devant Dieu de juger cela. Mais comme j'ai dit, ce verset 5 ne veut pas dire qu'il y a un silence absolu sur la question. Non. Sinon, Paul n'avait rien à dire aux Corinthiens au chapitre 5. Et pourtant, il dit des choses. Donc voilà, de bien comprendre cela, Paul est en train de parler des motivations, des sentiments, de ce que les hommes ne peuvent pas voir, mais que Dieu lui, il voit. Et lorsque nous sommes dans l'humilité, à ce moment-là, nous allons pouvoir bien aborder les gens en disant, ben, voici ce que dit la parole de Dieu, c'est pour ton bien que je le dis. Et lorsque nous sommes dans l'humilité, nous allons bien recevoir cela. Cette humilité va faire que nous allons pouvoir tous grandir. Et le but de l'apôtre Paul, c'était d'emmener ces chrétiens de Corinthe vers une maturité spirituelle, et il savait que cela passait par cette humilité. Que la base du problème qui régnait dans l'église de Corinthe, c'était l'orgueil. Et il fallait que ce soit banni. Et Paul encourager les chrétiens de Corinthe à une vigilance. Il voulait leur rappeler leur place. Ils étaient égaux devant Dieu. Ils étaient serviteurs. Il voulait les encourager à continuer de travailler pour le Seigneur, non pas pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Et puis de regarder vers l'avenir en disant, un jour, je rendrai des comptes. Et qu'est-ce que j'aurais fait avec ma vie? L'aurais-je passé dans l'orgueil ou dans l'humilité? Et cet examen constant de notre vie devant Dieu va nous garder dans l'humilité. Mais c'est une décision que nous devons prendre tous les jours, à chaque instant. C'est une décision que nous devrions renouveler encore aujourd'hui, ce matin. Parce que nous tombons si facilement dans l'orgueil. Et si nous sommes chrétiens, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il est normal pour nous de rester dans l'humilité. Il est complètement anormal d'être dans l'orgueil. Alors, suivons ces encouragements, ces principes que Paul annonce aux Corinthiens. Mettons-les en pratique ici dans notre Église pour que nous puissions être agréables à Dieu et que nous puissions recevoir la louange de Dieu, non pas pour ce que nous aurions fait, mais pour ce que Dieu aura fait en nous. Prenons cette décision ensemble, que le Seigneur nous aide avec cela. Prions. Et notre grand Dieu, nous reconnaissons notre incapacité d'être humbles par nous-mêmes, de faire toutes ces choses, de faire même le moindre des choses sans ton aide. Et Seigneur, que tu nous aides déjà à nous rappeler ces choses et par ton Saint-Esprit, que nous puissions les mettre en pratique aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine qui est devant nous. Et Seigneur, que ta vie puisse être manifestée à travers la nôtre, et que nous puissions t'apporter toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due, parce que nous restons